À la présentation du journal, Jacques-Yves Molima.
Mise en place des animateurs du programme Mani au Nord Kivu, une structure instituée par le gouvernement, qui est une suite logique de la conférence sur la paix dans les Kivu. Dans ce journal, vous suivez les réactions des groupes armés, notamment le CNDP de Laurent Kunda et de Mai Mai. La MONUC prête à poursuivre son assistance dans la réalisation de projets humanitaires du quartier occidental. Réponse de Ross Montaigne à la préoccupation de la presse locale de Kananga, qui pense que tous les efforts de la MONUC ne sont focalisés qu'à l'est de la République démocratie du Congo. Arrivé depuis mardi dernier à Kinshasa d'un nouveau char automobile destiné au transport en commun, c'est un reportage à suivre dans la seconde partie de cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais tout d'abord, au sud du Kivu, un nouveau tremblement de terre a secoué la ville de Bukavu et ses environs cette nuit. Le plus fort a une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter, selon les volcanologues présents dans la ville. Les autorités urbaines parlent de nouveaux dégâts matériels, notamment dans la commune de Bagira, dont les trois bâtiments ont été les plus touchés lors du premier séisme du 3 février dernier. Alors, nous avons en ligne Didas Namujimbo. Didas, que s'est-il passé exactement cette nuit et comment a réagi la population de Bukavu, notamment dans votre quartier de Mukokwe?
Oui, déjà depuis le milieu de la nuit, autour de minuit, des petites répliques étaient ressenties dans Bukavu et les plus fortes, la plus forte réplique a été celle de 4 heures, autour de 4 heures du matin. Et quelques secondes plus tard, une autre secousse a secoué les maisons. Du coup, c'est tous les quartiers Mukukwe, Vamaro, où je me trouvais, qui s'est retrouvé dehors, en évitant bien sûr les murs, les murs fissurés, mais également les grands bâtiments.
Alors, est-ce qu'il y a quelques premières évaluations à part votre quartier?
Oui, le maire de Bukavu, joint ce matin au téléphone, n'a pas donné de bilan exact, mais il a précisé que la commune de Bagira serait la plus touchée. C'est notamment suite aux importantes fissures provoquées par le premier tremblement de terre du 3 février dernier. Il faut retenir ici que le maire de Bukavu est le porte-parole de la commission des crises qui avait été mise en place par les autorités provinciales au lendemain donc de ce premier tremblement du 3 février.
Et quel est, Didas, le point de vue des vulcanologues?
Tôt ce matin, ils ont rendu public un communiqué dans lequel ils précisent que 10 séismes ont été enregistrés cette nuit dans Bukavu et ses environs. Le plus important, d'une magnitude, tu l'as dit, de 5,5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre était situé au sud-ouest de l'île Bidui, qui est une île à côté de Bukavu, et c'était à une profondeur de quelques 8 km donc, de profondeur. C'est ce que le volcanologue Wafula Dudonné a eu à préciser à la presse.
Merci Didas, nous osons croire que vous aurez encore plus de détails sur ce tremblement de terre, un nouveau tremblement de terre qui a secoué la ville de Bukavu au courant de la journée. Restez avec nous pour toutes ces informations sur Bukavu et ses environs. Les animateurs de la structure dénommée Programme Amani, institué par le gouvernement congolais, viennent d'être désignés ce mercredi à Goma. C'était à l'issue de la visite de travail de 24 heures du ministre d'État en charge de l'Intérieur, Denis Kaloumé, accompagné de l'abbé Apollinaire Malumalu. Cette nouvelle structure, qui est la suite logique de la conférence sur la paix dans les Kivu, a été acceptée par tous les signataires, même si les représentants des différents groupes armés ont émis quelques réserves. Il s'agit notamment du CNDP. Et bien que reconnaissant la volonté du gouvernement congolais à matérialiser les recommandations de la conférence, son porte-parole déclare que certaines questions restent encore à régler. René Abandi est au micro de Moïse Mutunga.
Et de manière claire, je crois qu'il y a un travail à faire. Tout reste à faire ou peu seulement a déjà été fait. Alors nous convenons de nous mettre au travail. Et il y a encore des domaines où on n'est pas encore d'accord et dans l'intérêt de la paix, nous pensons que c'est toujours important de mettre plus en relief ce sur quoi on est d'accord. Et nous trouvons que du côté du gouvernement, il y a une volonté d'aller de l'avant et nous pensons que la mise en pratique de cette ordonnance nécessite beaucoup d'ingéniosité et puis nous pensons que notamment tout n'a pas été réglé.
De leur côté, les groupes Maï Maï déclarent être d'accord avec la mise en place de la structure à Mani et de ses animateurs. L'essentiel pour eux est que la paix demeure. Le porte-parole de groupes armés Maï Maï, Didier Bitaki, est au micro de Moïse Mutunga.
Pour nous, on l'accepte parce que nous avons toujours dit, nous travaillons, nous luttons pour la paix. Nous l'acceptons pour dire que la structure elle-même nous amène vers la paix. Parce que nous sommes fatigués de conflits interminables. Mais si cette structure pourra nous aider à tranquilliser, stabiliser notre pays, notre province, nous serons contents. Nous l'avons accepté sans amendement.
Parlons justice à présent. Tout d'abord, le procès de Thomas Lubanga. Ce procès devrait débuter au plus tôt le mois de juin prochain devant la Cour pénale internationale à La Haye et non le 31 mars selon la déclaration faite ce mercredi par un magistrat de la Cour pénale internationale. Selon l'agence France Presse, ce retard sur le calendrier prévu est dû au fait que le bureau du procureur Luis Moreno Ocampo a à ce jour transmis à la défense moins de la moitié des témoignages à charge qu'il compte présenter. Et bien avant, la Cour avait décidé que la défense aurait 12 semaines pour examiner ces témoignages avant les débuts du procès. Selon la même source, le procureur adjoint Fatou Bensouda a quant à elle assuré et a assuré que le bureau du procureur travaille à respecter cette date du 31 mars, suscitant de nouveaux doutes du juge Fulfort. Pour rappel, Thomas Lubanga, 46 ans, ex-chef militaire de l'Ituri, sera jugé pour enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, ce qui constitue un crime de guerre. Et puis à Bukavu, le procès en appel sur l'assassinat de Serge Maïché est de nouveau reporté à mercredi prochain. Initialement prévu hier mercredi, la cour militaire de Bukavu n'a pas pu siéger pour des raisons encore inconnues pour l'instant. À l'audience prévue pour 10h et 13h, heure locale, la cour n'était pas dans la salle. Selon un membre de cette cour militaire, le premier président de la cour était empêché et les avocats désignés des deux principaux inculpés n'étaient pas venus. Pour rappel, mercredi dernier, la première séance avait été reportée suite à des irrégularités relatives à la notification des prévenus. Seuls 7 sur les 12 étaient présents et d'autres n'avaient pas leurs avocats dans la salle. Serge Maïché, journaliste de Radio Capi, avait été assassiné, vous le savez, le 13 juin 2007 en pleine rue de Bukavu. Autre chose à présent, la MONUC continuera à accorder son assistance dans la réalisation des projets humanitaires du Kasaï occidental. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Ross Montaigne, l'a dit hier mercredi au cours d'un point de presse accordé aux médias de Kananga. Ross Montaigne réagissait ainsi à la presse locale qui considère que tous les efforts humanitaires de la MONUC sont orientés vers l'Est. Parmi les projets prioritaires envisagés pour cette année 2007 au Kasaï occidental, Ross Montaigne a cité entre autres la prise en charge des expulsés congolais de l'Angola et des victimes de violences sexuelles. Ces propos sont recueillis par André Kambala.
Je suis le coordinateur humanitaire pour voir comment on peut donner une assistance qui peut avoir un impact pour la population dans l'année qui vient. On espère être la priorité que le CDIA vont nous suggérer. Je suis ici pour parler avec nos partenaires. L'année passée, on a soutenu une série de programmes qui incluent des routes de face aux problèmes des gens qui étaient rentrés d'Angola, des victimes de violences sexuelles, etc. Il y a une série de ces programmes. Des routes et chemins, c'est important. On va voir ce qui est proposé pour qu'on puisse avoir le maximum d'impact et effectivement, j'attends le conseil de l'école.
À suivre dans un instant, le reportage sur l'arrivée à Kinshasa du premier lot d'un char automobile destiné au transport en commun, mais tout de suite, l'actualité en plus bref. En sport, en prévision du match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée-Équatoriale 2008, les Léopards d'Am ont entamé leur mise au vert depuis ce mardi 12 février 2008 à l'hôtel Diplomate. Les 23 filles retenues en 2 séances d'entraînement chaque jour. Pour rappel, en match aller de ces éliminatoires, le Congo-Brazzaville recevra la République démocratique du Congo le dimanche 24 février prochain au stade Massamba Débat. En international, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a posé ses conditions mercredi dernier à une participation des États-Unis à la prochaine conférence de l'ONU sur le racisme qui doit se tenir l'an prochain à Durban en Afrique du Sud. Nous n'avons pas pris de décision finale à ce sujet, a déclaré le chef de la diplomatie américaine qui était interrogé par un sénateur sur la prochaine conférence de Durban en Afrique du Sud concernant le racisme et la discrimination raciale.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Notre rendez-vous en province avec vous, Nazar Koko. Nous nous rendons dans la commune de Badolité, au nord Bangui, province de l'Équateur, où le bourgmestre de cette commune, Emmanuel Dawili Ngoma, est revenu aux affaires depuis mardi dernier.
Celui-ci retrouve ses fonctions après une suspension de 7 mois. Emmanuel Dawili a été rétabli dans ses fonctions par le maire intérimaire de Badolité, qui exécutait l'ordre du gouverneur des provinces, José Makila. Signalons que le bourgmestre de la commune de Badolité était suspendu de ses fonctions en juin dernier pour avoir délivré un document autorisant l'achat des mitrailles, parmi lesquels des câbles de la SNEL et des tuyaux de la régie des eaux qu'achetait un opérateur économique des nationalités sierra-léonaises.
Au Cap-Vert occidental, pendant 7 ans, l'administrateur du territoire de Luisa, à 200 km de Kananga, dénonce les tracasseries des militaires sur ses administrés.
Denis Palanda demande par conséquent aux militaires soupçonnés de ces actes de ne plus effectuer des missions à l'intérieur du territoire sans l'aval du Conseil territorial de sécurité. L'administrateur du territoire motive sa décision par la confusion qui a eu lieu la semaine passée à Kalunga, à 30 km de Luisa. Il est au micro d'André Kambala.
D'une localité qui est dans le secteur de Kalunga. Là, quand les militaires arrivent, ils arrêtent d'une façon désordonnée, ils torturent, ils demandent des amendes, donc c'est ce qu'on appelle communément Makuriandela. C'est-à-dire que ce ne sont même pas des amendes, mais ils disent que les déplacements doivent être payés. Et souvent, ça varie de 15 000 francs congolais à 50 000 francs congolais. Nous avons été dernièrement sur place, nous avons entendu tout ce que la population a raconté, nous avons pris des décisions. Désormais, aucun militaire ne peut sortir sans du moins un visa de notre part. Aucun militaire ne peut pas encore traiter des dossiers civils, parce que souvent, ils ont cette habitude-là de traiter des dossiers civils.
L'auditorat militaire garnisé de Kananga de son côté dit ne pas être informé de la situation. Toutefois, le colonel Roger Ouavara rassure mener des enquêtes sur cette accusation.
Nous l'avons annoncé dans le sommaire, Serge Coco, un nouveau charroi automobile destiné au transport en commun à Kinshasa depuis mardi dernier.
Ce charroi est constitué de 20 taxis, 35 bus, 6 bennes pour le ramassage des ordures et 2 dépanneuses. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui l'a lui-même annoncé mardi dernier à la presse. Ces bus ne viennent-ils pas accentuer les problèmes d'embouteillage qui se posent déjà avec acuité dans la capitale congolaise? La réponse à cette question avec Madame Thérèse Olinga, ministre provinciale en charge de la communication et porte-parole du gouvernement provincial. Elle est juste au téléphone par Patricia Wanda.
C'est vrai que nous peinons tous avec les embouteillages que nous vivons dans la ville, mais cela est dû, c'est vrai, à l'état de la voirie, le nombre croissant des véhicules, etc. Mais comme gouvernement, nous pensons à des réponses et des experts de ce secteur ont réfléchi à des propositions qui sont faites, à des panneaux de signalisation que nous allons devoir multiplier dans la ville, le marquage au sol, ce sont des solutions palliatives qui peuvent arriver, mais je sais que les réponses définitives et durables viennent dans le cadre de la réhabilitation de la voirie et de la construction même des nouvelles routes. Et je peux vous dire qu'avec le démarrage réel des travaux concernant les infrastructures des bases dont la voirie, les routes pour les cités prennent une bonne part.
Et puis, refermons notre journal par la Saint-Valentin à Kinshasa. À l'occasion de cette fête, aujourd'hui 14 février, les amoureux ont pris l'assaut des boutiques de plusieurs mercredis.
Ils s'y sont rendus en masse pour acheter qui ? Un bouquet de fleurs, qui ? Une carte postale ou tout autre cadeau pour l'offrir à la personne aimée ? Les préparatifs allaient donc bon train, comme nous l'a confirmé Mireille Kabbala après un tour des boutiques du centre-ville.
C'est dans cette ambiance de fête que cette boutique accueille des clients âgés de 14 à 40 ans. Hommes et femmes confondus pour avoir un peu de place pour choisir et acheter le cadeau de sa ou de son bien-aimé. On se permet même de bousculer légèrement d'autres clients, ce qui fait la joie de la gérante de la boutique, satisfaite de l'engouement.
Nombreux, depuis ça fait déjà 3 jours qu'on est rempli, les gens viennent, les stocks que nous avons, c'est plus que les stocks qu'on prépare pour la Noël.
Donc vous voulez déduire que la Saint-Valentin se fête à Kinshasa un peu plus que la Noël, c'est ça?
Oui, maintenant, oui, ça prend vraiment ampleur. Hein.
Acheter un cadeau pour la personne aimée, est-ce un simple plaisir ou existe-t-il un autre sens au geste? Réponse d'une cliente surprise dans la boutique.
Je l'aime, oui, que l'amour existe.
Quant à l'habillement qu'il faudra porter ce 14 février, les amoureux préfèrent le rouge comme signe d'amour fort. Le 14 février, l'histoire enseigne que, pour la fête de Saint-Valentin, les amoureux commémorent un vaillant prêtre tué qui conférait le mariage aux militaires amoureux au moment où le gouvernement l'interdisait. Et pour avoir osé, ce prêtre fut tué.
Voilà, 8h15 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal. Merci Nazer Koko, merci également à vous, mesdames et messieurs, pour nous avoir suivis et bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous.